RCF.
Nous sommes en compagnie de Michel Vautreau et de Monseigneur l'Archevêque. Pour des raisons techniques et surtout Michel Vautreau étant très pris, il va devoir partir. Donc, il va poser en quelque sorte les questions qu'il avait envie de poser à Monseigneur l'Archevêque. Mais surtout, on va parler un peu de son actualité. C'est une actualité assez lourde puisque, à nouveau, il a donné son nom à... ça a été très événementiel, là, une grande place sportive de Besançon. Alors, Michel, cet automne, cette fin d'été, cet automne, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez fait?
Donc, je suis modestement moi-même, puisque j'ai continué d'aller pour l'Union européenne superviser des matchs de Ligue des Champions. C'est d'ailleurs ma dernière année sportive, puisque je suis atteint par la limite d'âge, tout arrive. Mm-hmm. Là, j'étais la semaine dernière à Porto en Ligue des Champions contre Leicester, et le tour avant, j'étais à Manchester City contre Barcelone.
Donc vous ressentez dans ces grandes villes et ces grandes nations du sport cette quasi-religion que sont les activités sportives et le football en particulier?
On le dit souvent, certainement à tort, mais on dit souvent que le football est une religion dans beaucoup de pays. C'est vrai que ça attire beaucoup de monde. C'est dommage que nos églises maintenant attirent moins de monde que certains stades. Mais j'étais donc à Porto, et comme en Espagne, même y compris dans les grands stades, les grandes équipes, il y a la chapelle. C'est primordial. On se demande même si elle n'est pas construite avant les buts. Elles sont toujours bien entretenues, les joueurs vont prier avant. Et alors il y a une part évidemment de vraie croyance, parce que si on regarde bien tous les matchs,
tradition.
Il y a beaucoup de joueurs, quand ils rentrent, ils touchent le terrain et font touchent la pelouse et font un signe de croix. Donc beaucoup essayent de se raccrocher à la religion. Je ne suis pas certain qu'ils la pratiquent régulièrement, mais ils s'en servent un peu comme un talisman. Et donc il est clair aussi que on compare donc la religion avec le public, parce que les gens viennent nombreux, parce que ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Regardez, là, on parle beaucoup de toutes ces tricheries par rapport aux déclarations d'impôts qui ne sont pas faites, par rapport à cet argent qui est caché. Et parallèlement, eh bien, Ronaldo reçoit le Ballon d'Or, et il y a beaucoup de monde qui sont prêts à payer cher pour aller le voir. Donc c'est un petit peu aussi toutes les contradictions de notre monde moderne, où finalement on parle donc du sport comme une religion, mais aussi comme l'argent, comme le roi argent, le roi dollar.
Donc chacune de vos phrases et de vos commentaires sont effectivement sujets à réflexion, et ben, on va poursuivre un peu à notre niveau et en compagnie de Monseigneur Bouveret, qui apportera peut-être un peu d'eau à votre moulin, Michel, pour qu'il puisse tourner en quelque sorte. Mais on se rappelle, vous et moi, de l'activité intense de nos religieux, de nos prêtres, devenu aumônier par la force des choses et d'un président fanatique et voulant, à défaut de construire une chapelle, avoir son aumônier. Et puis tout cela s'est un peu effiloché au fur et à mesure des manques aussi, hein, les manques de prêtres. Et par ailleurs, ça n'est pas devenu essentiel apparemment dans l'activité religieuse. Et pourtant, il suffit d'aller à la Malcombe, baptisé depuis peu Centre Michel Vautreau. Il suffit d'aller sur d'autres stades pour voir les mercredis, les jeudis anciennement, et les samedis, voire dimanches, le nombre de jeunes en activité sportive. Alors, est-ce que notre religion, que nous aimons, que les prêtres avec qui nous continuons d'avoir des contacts très amicaux, est-ce à dire que c'est un élément que notre Église a abandonné? Votre avis là-dessus, Michel?
Je pense que Monseigneur sera mieux placé que moi pour donner des explications. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le clergé a beaucoup vieilli. Et il n'y a pas eu beaucoup de jeunes en remplacement, puisqu'on manque cruellement de prêtres dans nos paroisses. Maintenant, avant, il y avait une église, un prêtre, un curé, donc par paroisse. Maintenant, il y a 8 ou 9 paroisses pour un seul homme. Ça, ça pose forcément un problème logistique. Ensuite, j'ai forcément la nostalgie, parce que comme vous, Jean-Pierre, il y a un exemple tout à fait exemplaire pour Besançon, et la région, c'est le fameux PSB, le patronage sportif bisontin. Et il y a un moment, je me souviens, Claude Boulet, les problèmes qu'il y a eu, quand il a voulu venir un petit peu, j'allais dire, dans le sens du vent, on a dit, il ne faut plus donner une connotation trop religieuse, et il a fallu trouver un autre nom pour dire le promo sport bisontin, parce que...
Au lieu du patronage sportif bisontin.
Donc c'était un peu aussi le début d'un changement de mentalité, d'un changement de comportement dans notre société actuelle. Et comme vous, donc, j'ai cette nostalgie, parce que moi, j'ai tout gamin, lorsque j'ai commencé d'arbitrer, le patronage sportif bisontin, c'était l'abbé Manche qui a énormément donné pour ce club, qui n'était pas non plus un agneau. Quand il voulait gagner, absolument, et il ne se privait pas de dire ce qu'il avait envie de dire.
Y compris aux arbitres.
Aux arbitres, c'est ça que je voulais dire, mais il était tellement passionné. Et moi-même, j'ai commencé d'arbitrer dans les tournois de Sixte, Fraisant dans le Jura, c'était le fameux abbé Joseph Melko qui a donné son nom au stade de Fraisant, qui était un passionné de sport, de football. On peut dire que sans lui, le club n'aurait certainement pas existé ou survécu. Et j'oublierai jamais, c'était ses curés un peu, il n'était pas prêtre ouvrier, mais dans le style, il faisait un enterrement. Les gens étaient à peine sortis qu'on le voyait, qui était en train de réparer une voiture, de donner un coup de main à quelqu'un. Il était avec la vieille soutane sous la voiture pour essayer de la réparer. Donc c'était pareil pour le foot, et c'était lui l'animateur, et c'est lui qui, la première fois que j'ai tenu un sifflet, c'était dans le cadre du tournoi de Sixte de Fraisant, sous la présidence et l'animation de l'abbé Joseph Melko. Quand je suis allé le trouver, j'ai dit, écoutez, je joue pas parce que j'ai pas le droit, j'ai été malade, j'ai pas le droit de faire de sport, et ben je voudrais bien arbitrer, vous en recherchez des arbitres pour les tournois de Sixte, qui étaient sans loi, hein. C'était le Far West. Et il m'a dit, mais t'es bien jeune, allez, ben je vais te donner à arbitrer un match. J'oublierai jamais que c'est lui qui, le premier, m'a fait confiance et m'avait donné, j'étais fier, jusqu'au quart de finale du tournoi de Sixte de Fraisant. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était des matchs qui étaient très chauds. J'en profite aussi pour non seulement saluer Monseigneur l'archevêque, mais dire que c'est vrai, quand je le compare, il a une taille de sportif. Il a vraiment la forme sportive. Il fait du vélo, il fait d'autres sports, il pratique. Et ce qu'ils font, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est important qu'un archevêque donne une image de sportive, une image de Schutzfeld, et une image aussi pas seulement confinée à la religion, parce que la religion, elle est partout. Et j'avais un ami prêtre qui aimait souvent me dire, Michel, finalement, la chair ne devrait pas être à l'intérieur de l'Église, elle devrait être à l'extérieur. À l'intérieur, les gens sont déjà convaincus. Donc, il vaut mieux aller à l'extérieur pour les convaincre. Et là, je pense qu'effectivement, le sport est un bon vecteur pour apporter, surtout par les temps qui courent actuellement, avec tous les problèmes, et on ne va pas mélanger, bien sûr, puisque j'ai des amis dans toutes les religions, mais on sait maintenant aussi que d'autres religions se servent de la jeunesse, du sport, pour attirer à eux de nouveaux, j'allais dire, entre guillemets, de nouveaux clients.
Alors, vous avez souligné les difficultés de notre chère Église, pourquoi, et en tout cas de nos chers prêtres. Nous avons beaucoup d'amis dans les milieux cléricaux, et Dieu sait si quand je les rencontre, vous avez vu Michel Vautreau, comment il va, on le voyait de temps en temps, au centre diocésain, quand il venait voir Michel Jacasse, autre personnalité, n'est-ce pas ?
Sportive, et puis qui a aussi fait beaucoup de compétitions, qui a rencontré avec Monseigneur Lacran, puis il l'emmenait dans toutes les manifestations sportives, parce que c'était aussi, Monseigneur Lacran était un sportif, et notre Michel, je pense beaucoup à lui, puisque jamais je ne suis venu dans ce studio sans qu'il soit venu rendre une visite, et j'ai encore en mémoire avec vous-même et votre épouse lorsque nous sommes allés souhaiter les 90 ans à notre bon Michel Jacasse, et qui malheureusement est parti peu de temps après.
C'est vrai. Alors simplement quelques questions que nous transmettrons en quelque sorte, ou dont nous parlerons avec Monseigneur Bouilleret ensuite. On a l'impression que, vous l'avez souligné, cette ère d'activité a été clairement abandonnée. Mais en même temps, étant donné l'attrait, étant donné les problèmes du sport qui sont les problèmes de notre société, n'y aurait-il pas invention, possibilité de se servir justement de tous ces problèmes, problèmes d'argent, problèmes de sexe, il faut en parler aussi,
de comportement,
problème de tricherie,
d'incivilité,
incivilité, problème, vous l'avez souligné, on refuse les décisions, on refuse un entraîneur, on refuse évidemment l'arbitre. Et comment imaginer justement un travail de nos édiles tels que Monseigneur l'archevêque pour essayer de pénétrer un peu ce milieu sportif et d'avoir une activité, pourquoi pas, dans ce milieu qui semble complètement fermé, mais qui supporte, entre guillemets, vraiment la jeunesse, quelquefois en difficulté. Hein.
Souvent.
La jeunesse la moins riche, la plus difficile. Et donc, il me semble que si l'ère des aumôniers n'est plus de mise, compte tenu, il me semble qu'un regard un peu plus précis de notre archevêque, de nos curés, sur ce milieu sportif qui parle à nos jeunes, est très important, n'est-ce pas, Michel ? Qu'en pensez-vous ?
Forcément. C'est très important dans la mesure où effectivement c'est là où on peut trouver la jeunesse dans toutes nos activités et dans toutes les activités sportives ou autres d'ailleurs. Et il faut dire aussi que nous sommes un petit peu baignés par la terre du Haut-Doubs, du Haut-Jura aussi, mais du Haut-Doubs en ce qui nous concerne, où c'était une terre de prêtres, de religieux, où dans beaucoup de... formait pas, il ne se créait pas un club, un ciné-club, un club de sport, sans que le curé du coin soit impliqué pour encadrer et pour aider et pour donner des conseils. À titre personnel, même si ma jeunesse est lointaine, je regrette beaucoup que nos jeunes, malheureusement, non seulement ne pratiquent plus les églises ou peut-être d'autres lieux de culte, parce que nous sommes en laïcité et nous devons respecter toutes les formes de culte qui nous entourent. Mais moi, j'ai quand même ce souvenir, et j'en parle souvent à mes neveux ou à des plus jeunes, je dis, moi, nous avons été élevés dans la tradition catholique, et j'avais peur quand je faisais s'il fallait aller bécoter une petite copine du côté derrière l'église, j'avais l'impression qu'il y avait l'arbitre au-dessus qui me voyait, qui me regardait, ça mettait des barrières. Or maintenant, je trouve que nos jeunes n'ont peur de rien, déjà que l'autorité parentale se délite de plus en plus, déjà que malheureusement, faute de perspectives professionnelles, les jeunes se découragent et partent parfois dans la facilité avec des trafics qui sont plus que douteux. Je pense qu'en ce qui me concerne, moi, la religion m'a apporté énormément parce que je savais qu'au-dessus de moi, on m'avait inculqué le fait qu'au-dessus, il y avait l'arbitre céleste qui me guettait et qui allait en tenir compte de tout ce que je pouvais faire de mal. Est-ce que maintenant, on a assez cette possibilité de dire aux jeunes écoute, tu vois, t'as un ange gardien, mais t'as aussi derrière un père fouettard quand tu te comportes mal. Il n'y a plus cette crainte. Et j'avoue que moi, ça a été une part de mon éducation. Ça a été une part de l'éducation de mes grands-parents qui n'étaient pas des gens à proprement parler d'église. Mais autrefois, on respectait dans notre village, c'était l'instituteur, le maire et le curé. Il y avait pas, c'était la trilogie de ces petits villages qui formaient un ciment. Qui formaient un ciment parce que tout le monde les respectait, les craignait aussi. Et c'est dommage que maintenant, eh bien, effectivement, il y aurait d'énormes réflexions à faire sur le sujet. On se souvient au PSB, je pense aussi à notre ami Guy Belot, qui n'était pas un prêtre, mais qui avait aussi...
Qui nous écoute certainement, d'ailleurs.
Qui avait des valeurs humaines, des valeurs religieuses, donc qui les répercutait, parce qu'il a aussi tenu le club dans des conditions difficiles, mais de réussite. Donc, je pense énormément que la religion, lorsqu'elle est pratiquée sans excès, sans extrême, parce qu'on souffre, y compris dans les religions que l'on côtoie, de ces extrêmes qui font mal, mais si c'est considéré comme un lien, si c'est considéré comme un appui presque parental, les jeunes auront une autre vision.
Michel, je vais parler encore, et pour en terminer, de la déification par les jeunes des footballeurs. Ce sera en quelque sorte notre conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça existe aussi chez les arbitres, d'ailleurs.
Bien sûr. Hein ? Mais dans la vie, vous savez très bien que les jeunes recherchent toujours un modèle, un exemple. Ils rêvent tous maintenant d'être Ronaldo. Ma génération, moi, c'était Coppa. Après, il y a eu la génération Platini. Et chaque jeune cherche un modèle et essaye de se refléter dans le miroir de ceux qui leur apportent du rêve. Et donc, ce qui est quand même dommage, c'est que ça gomme toutes les... On fait d'êtres humains, comme vous et moi, finalement, des demi-dieux. Alors, je pense que c'est aussi un problème de la société moderne, des médias. C'est un problème médiatique parce qu'on a mis ces gens-là sur un piédestal qui ne mérite pas toujours forcément, même s'il faut en permanence des exemples.
Le temps nous presse, Michel. Est-ce qu'il vous est possible de nous faire une petite conclusion à l'adresse de Mgr Bouilleret ?
Bah écoutez, j'aimerais bien faire du tandem avec lui, mais j'ai peur de pas pouvoir suivre sur le vélo parce que je sais que là, il a encore fait dernièrement, j'avais lu dans la presse un long trajet où il accompagnait justement, il me semble, des jeunes, si ma mémoire est bonne, et ben qu'il continue, et moi je peux aller en voiture pour l'encourager derrière et prier pour qu'il ait toutes les forces pour continuer à pédaler longtemps.
RCF. Oui, eh bien, je reprends l'antenne. Tout d'abord, pour vous remercier, Monseigneur, d'avoir répondu à notre invitation. Une invitation à une émission sportive, ce qui n'est pas le commun et l'habitude d'un Monseigneur. Encore que votre prédécesseur venait, comme vous, assez volontiers. Je suis en compagnie de Bernard André, que nos auditeurs connaissent pour l'avoir vu pendant de nombreuses années. Lui, c'est un apôtre de la télévision, qui a parcouru le monde du pôle Nord jusqu'au bassin méditerranéen. En tout cas, je sais que votre temps est compté et nous allons directement venir aux questions de Michel Vautreau, simplement pour ajouter que Michel Vautreau est un grand voyageur, qu'il a été à la fin du printemps et début de l'été à nouveau en Jordanie, où il a un point d'attache. Il s'occupe des arbitres curieusement jordaniens, mais qui pratiquent évidemment, on pratique en Jordanie le football. Et puis, il a parcouru, si je puis dire, l'ensemble des camps de réfugiés où il a amené bon nombre de photos et bien sûr beaucoup d'histoires à raconter. Et au-delà, évidemment, nous faire un peu craquer pour ce monde du Moyen-Orient en pleine ébullition, en plein drame, oserais-je dire. Alors, Monseigneur, le sport et les questions de Michel Vautreau.
Bonjour à nos auditeurs. Moi, j'ai entendu beaucoup au début hein, toutes les questions derrière d'images, au fond, hein, que représentent les grands sportifs, particulièrement, c'est vrai, Michel Vautreau l'a noté, dans le foot. Et c'est vrai qu'on est sur une génération qui a besoin, nous l'avons entendu également, de modèles. Mais souvent, nous disons, nous, que l'image peut être à la fois soit une idole, soit une icône. Il est mieux que l'image soit une icône qu'une idole. Parce que l'idole est souvent quelqu'un qui enferme et qui ne permet pas de grandir. Je crois que le sport, c'est vraiment aussi une invitation pour chacun d'entre nous à trouver un équilibre dans sa propre vie. Mais c'est vrai que les questions d'argent sont des questions qui marquent beaucoup notre société contemporaine. Parfois, j'aurais peur aussi qu'il y ait une forme de désillusion par rapport aux jeunes en disant voilà, je vais devenir un grand, grand footballeur. Comme ça, j'aurai beaucoup d'argent et j'aurai une vie professionnelle qui va durer quoi ? 15 ans ? Et après, je pourrai me reposer sur mes lauriers. Récemment, le pape François vraiment nous a dit, redit avec force, et ça secoue beaucoup hein, le monde, notamment le monde économique, en disant « la maladie de notre siècle, ça reste l'argent ». Et c'est vrai que si nous cherchons l'argent pour l'argent, nous allons vraiment, en quelque sorte, nous perdre. L'argent est là pour, comme un flux, pour permettre les échanges. Mais il y a sûrement une vraie, vraie question. Et c'est vrai que pour une jeunesse d'aujourd'hui, le rapport au travail, le rapport aussi à l'effort est important. Et c'est vrai que les sportifs font de gros, gros efforts. Mais je pense qu'il faut que nos grands footballeurs. Tout à l'heure, on a cité le dernier Ballon d'Or. Hein. Vous savez qu'il y a toutes ces discussions autour de cette attribution. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on aura peut-être aussi tendance à vouloir cloisonner les choses aussi.
Ronaldo, pour ne pas le cacher.
Deuxième Messi, troisième Griezmann. C'est mes souvenirs.
Je vois que vous
bons.
Connaissez parfaitement votre Bible du football.
Voilà, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au moins aux résultats sportifs sans être un grand sportif. Mais je pense qu'il y a une vraie question ici qui est importante. On a parlé aussi d'argent caché, etc. Je crois que si l'argent devient roi, c'est la perte de dignité humaine. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Je crois qu'il faut être lucide. En même temps, nous sommes dans un système où c'est le marché, peut-être, dans ses excès, qui fait la loi aussi. Et c'est vrai que c'est un petit peu complexe.
Spectacle.
Qui fait le spectacle. Alors souvent, j'entends aussi... peut-être à tort, la période romaine, hein, il faut donner au peuple du pain et des jeux.
On peut le dire.
Voilà, du pain et des jeux. Donc, il ne faudrait pas non plus que derrière tous ces grands événements sportifs, il y a une forme d'amusement du peuple aussi. Je trouve que ça pourrait être un danger aussi. Hein. On occupe aussi les gens par des jeux qu'on leur donne. Mais je crois qu'on en est pas tout à fait là, quoique, voilà, on peut se poser des questions. Voilà, je voulais aussi parler du clergé, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, et vous-même m'avez interpellé là-dessus. Hein. Dans les années 60-70, il y avait 1000 prêtres dans le diocèse de Besançon. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 et une cinquantaine en activité. Donc je pense qu'on ne peut plus penser que les prêtres vont pouvoir assumer cette dynamique, j'allais dire, de proximité de la vie ordinaire, même si, je pense, qu'il y a une vraie question hein, sur notre capacité à rejoindre notamment les jeunes là où ils sont. Mais peut-être que ce n'est pas uniquement les prêtres qu'il faut interpeller, mais c'est l'ensemble des membres d'une communauté chrétienne. Hein, je pense que lorsque nous développons ce qu'on appelle l'apostolat des laïcs dans notre langage, c'est aussi pour inviter chacun d'entre nous, chaque baptisé aussi, à aller à la rencontre des jeunes là où ils sont. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens que nous avions aussi hier et que le souci de l'annonce de l'évangile est vraiment premier du côté des prêtres. Mais voilà, il faudrait peut-être aussi nous organiser autrement, même si c'est compliqué et c'est difficile, hein, pour qu'il y ait une forme de disponibilité chez chacun d'entre nous, d'avoir une activité autre que directement liée à sa responsabilité paroissiale, en l'occurrence, parce qu'il s'agit bien de ça.
Une sorte d'aumônerie du sport, en quelque sorte.
Oui, alors après, vous savez, en ce moment, au diocèse de Besançon, on cherche un responsable pour la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Hein. Nous passons beaucoup de temps aujourd'hui à chercher, à solliciter des chrétiens pour prendre des responsabilités. Donc c'est vrai que nous sommes dans une méthode plus difficile. Hein. La responsabilité, les gens ont plus de mal à vouloir l'accepter. Le bénévolat est encore grand, la générosité est encore grande. On veut bien participer à des événements ponctuels. Mais assumer une responsabilité sur un temps plus long, avec parfois des difficultés de gestion, je pense que c'est une période plus difficile parce que nous sommes marqués aussi par une forme d'individualisme qui existe aussi dans notre société contemporaine.
À vos marques. Zoom sur l'actualité sportive. Jean-Pierre Rosé, Bernard André.
Revenons un peu à la problématique de l'émission. Donc, les rapports entre la religion et le mouvement sportif, vous avez expliqué la désertification. Hélas, on peut la regretter en raison du manque de prêtres suffisamment disponible et motivé. Mais en ce qui concerne les réflexions de Michel Vautrin, elles m'ont paru pleines de bon sens et quelquefois amusantes. Hein. Il a cette façon, ce langage qui lui est propre. On ne peut que les partager.
Oui, alors c'est vrai, mais même si, j'allais dire, je ne sais pas quel âge a Michel Vautrin, je ne sais pas quel écart d'âge.
72 ans.
Voilà, donc un tout petit peu d'écart d'âge, lui et moi. Je pense qu'on ne peut pas revenir période passée, quand il parle de la crainte, quand il parle de considérer Dieu comme un grand arbitre, etc. Je crois qu'on n'est plus sur cette période-là. Et c'est vrai que le pape François nous le redit avec force, hein, Dieu n'est pas un juge, il n'est pas là pour régenter la manière dont on peut vivre. Néanmoins, je pense que la responsabilité de chacun d'entre nous est toujours entière. Hein, nous ne faisons pas n'importe quoi dans chacune de nos vies. Je crois que c'est important aussi d'être responsable, et je crois que c'est pour moi vraiment le terme essentiel aujourd'hui.
Vous avez connu cette période-là de ces fameux patronages chrétiens?
Oui, bien sûr,
dans votre jeunesse.
Bien sûr, j'ai connu ce temps de patronage lorsque j'étais dans ma petite ville, hein, qui s'appelle Arbois, même si pour ma part j'étais plus marqué par le scoutisme. Donc là, il y a aussi une activité, je vais dire, plus... pas tout à fait sportive, mais quand même très, très liée à la nature, très liée aux grandes promenades, etc. Donc c'était sans doute un peu le début de mon intérêt, de mon amour de l'activité sportive. Je sais que le diocèse de Paris a réouvert ses temps un peu de patronage. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, parce qu'aujourd'hui, vu les réformes scolaires aussi, il y a un certain nombre de jeunes qui ne savent plus quoi faire dans leur temps libre. L'accès parfois à la culture est aussi parfois un accès qui coûte cher, je crois qu'il faut le dire aussi. Donc peut-être qu'il y aurait une réflexion à faire sur alors le terme peut changer, hein, ça peut être une activité. Alors je sais que notamment l'Action catholique des enfants, le MRJC, ces mouvements de jeunes qui sont encore bien présents au cœur d'un diocèse comme le nôtre, les scouts sont aussi des lieux où les jeunes se retrouvent volontiers.
Et vous avez donc pratiqué dans votre jeunesse un petit peu le sport. Vous avez commencé par quoi ?
Alors, je pense que j'ai commencé, je disais tout à l'heure, par la marche en moyenne montagne. Hein, c'était ça qui était le plus important. Après, le jour de ma profession de foi, j'ai reçu un vélo. Le jour de ma profession de foi, donc c'est peut-être ça qui m'a entraîné sur le temps du vélo. Et puis j'ai été très heureux d'entendre parler de Joseph Melkop, puisque j'ai beaucoup fait du vélo avec ses neveux qui sont de Salins-les-Bains. Nous avons arpenté ensemble les Alpes du nord au sud, cherchant toujours le plus haut col. J'ai des souvenirs mémorables montant l'Iseran où il neigeait au-dessus de l'Iseran. Donc c'est vrai que des temps où il pleuvait à saut, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est des temps, je crois, qui permettent aussi de forger d'une certaine manière un caractère, hein, dans l'effort, dans la persévérance. Parfois on dit, qu'est-ce que je fais là ? J'aurais pas dû venir. Voilà, donc ça c'est la partie plus du côté du vélo, mais nous sommes aussi dans un pays de neige.
Alors vous avez donc beaucoup pratiqué la marche, entre autres, le vélo. Hein,
le ski de fond également.
Le ski de fond, oui. Ouais. Est-ce que vous étiez obnubilé par la performance?
Non, pas,
ou
pas,
simplement la participation?
Pour moi, c'est principalement la participation. Hein, il n'y avait pas de recherche de performance. Sinon, par rapport à moi-même, et c'est vrai, quand on fait plusieurs fois la tranche jurassienne, on regarde ses temps passés.
On dit,
voilà, on tourne autour de 6h, 6h30, on essaie de tenir un peu ses performances. J'ai fait une bonne dizaine de fois, hein, la tranche jurassienne. J'ai eu la chance de faire les courses de la World Lopette, puisque j'ai fait une dizaine de courses internationales. Donc, c'était vraiment pas la performance, mais c'était aussi de partir avec des amis. C'était aussi un temps aussi d'amitié, un temps de rencontre, aussi de différents personnes. Je me rappelle en Australie de côtoyer les grands champions russes là pour la kangourou lopette, comme on l'appelle là-bas. C'est des beaux temps de rencontre aussi avec ces courses populaires. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les courses populaires, à la fois des champions de catégorie, quasiment catégorie 1, et le peuple que je représente en quelque sorte participait aussi à ces grandes compétitions.
Et ça constitue finalement un beau palmarès.
Oui, on parle d'armateur
modeste,
averti.
Mais...
d'armateur averti, si on peut,
oui,
s'exprimer comme ça.
Mais quand même.
Oui.
Et puis en vélo, vous avez parcouru sans
en
doute
vélo, c'est vrai
des
qu'en
milliers
vélo,
de kilomètres.
J'ai eu la chance de faire plusieurs promenades. J'ai eu la chance de faire Amiens-Compostelle, Amiens-Rome en vélo. Donc c'était aussi des temps importants. C'est pour moi aussi une question d'équilibre, hein, de vie. C'est une question aussi de retrouver ce temps aussi pour se poser aussi. Je crois que l'homme n'est pas un sédentaire, hein, et il faut aussi, entre guillemets, s'entretenir par la pratique sportive. Donc j'essaie une ou deux fois par semaine de continuer ce temps de sport.
Bien, je vais vous tacler gentiment. Nous n'avons pas d'arbitre.
Mais je suis prêt à répondre.
Très bien, mais j'ai vu.
Mais je peux répondre aussi fort que vous. Hein.
Vous parlez beaucoup de sport individuel. Or, le nouveau terrain de jeu de la Malcombe, baptisé récemment donc Michel Vautreau, par notre municipalité et en grande pompe, est bien mérité. Je crois qu'il a 5 à 6 stades en France, dont un à Gillé, n'est-ce pas, Bernard?
Oui, tout à fait.
Je
oui.
sais qu'il doit en avoir un autre stade, en Bretagne.
Hein, stade. Oui, stade. C'est une très belle figure.
Hein. Oui, et Michel est connu dans le monde entier. Mais il m'est apparu dans votre réflexion que vous êtes très branché sport individuel.
Pas tout à fait, puisque quand on fait du vélo, on est toujours en groupe.
C'est vrai.
Et si vous n'avez pas quelqu'un devant vous qui éventuellement coupe le vent, vous en bavez un peu plus, si je peux m'exprimer. C'est la même chose pour le ski de fond. Hein. Quand vous faites la tranche jurassienne, vous êtes content aussi qu'il y ait quelqu'un devant vous, même si ce n'est pas directement des sports d'équipe. Je pense que c'est une question aussi pour moi d'emploi du temps et un peu de peut-être de nécessité de solitude aussi dans l'activité qui est la mienne, qui est débordante. Ces temps sportifs de solitude sont aussi importants pour moi. Mais j'entends bien que la question du sport d'équipe est importante.
Elle est très importante. Alors, qui n'a pas été, et peut-être vous, et je vais vous inviter ensuite, à l'occasion, à venir avec moi voir un mercredi ou un dimanche matin le terrain
de la Dimanche matin, ça va être un peu plus difficile. D'habitude, je suis à la messe.
Il y a là. Allez à la Malcon.
Mais je suis disponible pour aller.
Je vous invite et j'irai vous chercher.
Mais ça ne sera pas un dimanche matin.
Ce sera un autre jour. Un samedi, par exemple, après-midi, et nous irons ensemble regarder et passer parmi tous ces jeunes. Oui, Monseigneur, je vous prends au mot, si je puis dire. Nous allons aller tous les deux, invités par le président d'un des grands clubs bisontins, on ne va pas ergoter celui qui va nous inviter, et pourquoi pas à football, parce que c'est un sport co, et que, après tout, vous faites du sport co. Eh bien, écoutez, je propose que nous allions, répondant à une invitation, à l'un des grands prochains matchs de l'un de nos deux clubs majeurs, encore que dans le football, il est bon aussi d'aller voir les sans grades et les sans noms. Mais là, ce sera pour l'occasion de venir dans les tribunes et d'applaudir à un match de football.
Bien volontiers, c'est vrai que... Je suis très très heureux de cette invitation. C'est vrai que depuis mon arrivée à Besançon, je n'ai pas eu l'occasion de répondre à une telle invitation. Mais je
vous avez une
beaucoup.
Figure, Monseigneur. Les gens n'osent pas, alors que notre débat...
C'est très bien dosé de votre part.
...l'a montré. Et là, effectivement, vous êtes avenant, vous appréciez. Vous êtes prêt à venir donc à l'un de nos matchs. Et ben, je me fais fort d'assurer l'intermédiaire, si je puis dire, entre nos édiles sportives.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Bernard.
Je pense qu'effectivement, les terrains de sport, que ce soit le football, le handball ou d'autres sports, c'est magnifique de voir tous ces gamins-là qui sont quelquefois effectivement un peu perdus. Je pense à un tournoi, le tournoi des jeunes pousses, là, des petits champions qui rassemblent 500 jeunes enfants qui viennent le temps d'un week-end. Je crois que c'est à la Pentecôte, précisément là où vous êtes très pris, je pense.
Oh, pas plus que d'autres
pas
fois.
Plus pas que plus que d'autres fois, oui. Là, il y a effectivement quelque chose à voir, quoi.
Bah, de Mais toute il façon, une, il reste une présence à la Fédération sportive culturelle de France. Hein,
oui, FSF, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Assez
oui.
forte hein, quand même. Même si l'aumônier oui, oui. Pierre Berger prend un peu de l'âge en même temps, nous sommes en train de réfléchir pour un nouvel aumônier pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a aussi une présence de l'Église dans la Fédération sportive et culturelle de France.
Pour ne pas faire de jaloux.
Et Pierre Berger, un beau personnage,
oui,
qui
mais
on peut.
Bon, il a un certain âge aussi, il a oui. des soucis de santé.
On peut lui rendre hommage.
Voilà,
hein.
c'est vrai. C'est
pour
vrai.
Moi, des petits champions de rugby aussi, Bernard, qu'on
grand
n'aille pas s'attirer.
Oui, oui. Grand pongiste, oui. Pierre Berger.
Ah
oui, oui.
Voilà.
RCF en Franche-Comté, la joie se partage.
Oui, bah écoutez, Monseigneur, nous continuons notre petit marathon. Que pensez-vous de cet aspect important qui intéresse ô combien les jeunes de l'argent dans le sport? Vous savez combien ces idoles, entre guillemets, je vous ai parlé du veau d'or en parlant de ces idoles, intéressent. Ils s'échangent des photos qui deviennent un problème technique. On veut la photo de Ronaldo pour mettre sur un cadre et on a des centaines, des milliers de photos. C'est une collection de photos des grands footballeurs qui existait déjà du temps où moi-même...
Oui, c'est assez ancien, je crois, aussi.
Voilà, hein. Où je pratiquais le football professionnel. Mais enfin, c'est un... C'est un temps ancien et ces images du football Qu'en pensez-vous, vous, de cette faculté qu'ont les jeunes à ces collections où ils interprètent, si vous voulez, ces footballeurs comme étant de véritables dieux ?
Le monde de la jeunesse a besoin de modèles. Je crois que c'est Michel Vautreau qui le disait, je suis bien conscient. Alors après, c'est aussi la responsabilité du modèle, entre guillemets, à renvoyer aussi à chacun de ces jeunes. Je crois que le danger, c'est de créer des miroirs aux alouettes. Et c'est vrai que si on crée des miroirs aux alouettes, la déconvenue peut être très grande. Et c'est vrai que parmi tous les jeunes qui rêvent, entre guillemets, d'un destin à la manière de ces grands joueurs professionnels, puisqu'on est plutôt centré sur le foot, combien arriveront dans les clubs professionnels jusqu'en Ligue 1, pour le dire comme ça, mais combien aussi seront dans une grande, grande déception ? Alors, qui va pouvoir, entre guillemets, récupérer, je mets bien des guillemets, ces jeunes qui vivront peut-être une forme de déception parce qu'ils ne pourront pas atteindre l'idéal qu'ils ont choisi. Donc pour moi, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes, quels qu'ils soient, ceux qui sont doués et ceux qui sont moins doués, je crois qu'il me semble très important aussi.
Bien, eh bien écoutez, vous avez répondu franchement à toutes ces questions. Est-ce qu'il en restera quelque chose au niveau de nos activités religieuses ? Je vois quand même une chose, c'est que samedi soir, il y a un match très important à Besançon. Et là, il y a le derby. Ce derby oppose deux clubs bisontins qui sont en CFA2 et qui ont beaucoup de mal d'émerger au niveau supérieur. Une polémique actuelle fait l'objet de nombreux articles qui voudraient que ces deux grands clubs bisontins, le Racing et le FC Besançon, nouvellement créés, s'associent et deviennent peut-être un futur très grand club de type Sochaux ou autre que Besançon a été. Savez-vous que Besançon a joué pendant une cinquantaine d'années en football professionnel, toujours en deuxième division? C'est le record d'ailleurs de compétition en deuxième division. Bien sûr, tout ça a disparu. Mais il y a... Alors, est-ce que vous êtes pour ce rapprochement entre deux grands clubs bisontins?
J'ai pas d'avis. Sinon,
c'est le problème actuel du sport à Besançon.
Je rêverais aussi que côté sport, c'est-à-dire notre ville de Besançon, soit aussi émergente que Dijon, pour le dire comme ça. Et c'est vrai que là, nous avons sans doute un petit peu de travail. Le basket est bien présent sur Besançon. Mais je crois que, sans m'immiscer hein, dans les questions directement sportives, c'est vrai qu'une ville... Une ville, Besançon, que j'aime, a besoin sans doute d'une émergence très forte au point de vue sportif. Alors après, c'est des questions de politique globale, pour le dire comme ça. Mais c'est vrai que je rêve que, voilà, que dans les médias, Besançon ait une place grande dans notre pays.
Bernard ?
Eh bien, oui, dans les sports collectifs, tels que ceux que vous venez de citer, une région comme la nôtre n'a pas sa place. Manque de moyens, pas de sponsors, pas d'usines. Par contre, dans ces sports individuels, entre guillemets, tels que adaptés à la région, tels que le ski, ski alpin, ski de fond, et on a quand même la possibilité de tirer notre épingle du jeu. Et ce sont surtout ces régions villageoises du Haut-Doubs qui tiennent le haut du pavé, si je puis dire, et qui sont restées très sensibles à ces activités-là. Pour le reste, évidemment, c'est pas le football ni le basket qui vont tirer la région en Franche-Comté. Hein.
Au niveau spectacle, hein, il s'entend.
On a des bons souvenirs du biathlon. Hein,
Oui, bien sûr.
L'arc jurassien, si je peux m'exprimer
comme
ça.
C'est adapté à la région, d'ailleurs.
C'est vrai que c'est adapté, mais les investissements sont relativement importants en temps et en énergie. Et il faut commencer très tôt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un jeune qui veut percer dans le monde sportif va commencer dès l'adolescence. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi détecter, il me semble, assez tôt ces jeunes pousses là qui ont un avenir prometteur. Mais c'est vrai que la compétition devient de plus en plus internationale également. Donc c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça.
Le ski, où nous brillons particulièrement, et où le Haut-Doubs, le Haut-Jura, que vous aimez d'ailleurs, je sais que vous faites du ski à vos heures, si le temps vous laisse, tranquille quelques matinées, Qu'est-ce que vous pensez du ski actuellement en Franche-Comté, des aides de nos édiles politiques d'ailleurs, qui donnent volontiers à des sportifs très performants?
Oui, je pense que c'est nécessaire hein, d'aider les sportifs qui peu à peu émergent. Après, je pense qu'il faut, voilà, il faut regarder sur le long terme, mais il ne faut pas non plus tenir à bout de bras les personnes parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Je crois qu'il faut aussi un équilibre dans les soutiens qui peuvent être donnés.
Très bien, Monseigneur. Bah, écoutez, on a parcouru un peu tous les problèmes, n'hésitant pas à se rencontrer très amicalement. Et merci en tout cas d'avoir pris sur votre temps.
Merci à vous de m'avoir invité.
J'aimerais à nouveau...
Depuis le temps que je devais venir vous voir.
Absolument. Et c'était très amical. Mais en même temps, ça fait partie du sport. Et c'est pas toujours tendre. Mais au total, l'important, c'est de se rencontrer, c'est de discuter. Et au-delà des problèmes... ne pas les repousser, mais en parler. Et je vous remercie très sincèrement. Je vous donne rendez-vous au printemps. Nous regarderons un peu cette image du sport. Nous espérons, n'est-ce pas Bernard, que Michel Vautreau sera là.
Merci beaucoup.